France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'est-ce qui vous rend fier? J'espère que vous vous êtes vous-même posé la question à force de m'entendre la poser à tous mes invités ou presque. Je vais continuer à le faire d'ailleurs, car je crois que la fierté, à ne surtout pas confondre avec l'arrogance, peut être un moteur, une bonne raison de porter à bout de bras des projets, des initiatives solidaires ou durables, des idées qui changent une partie du monde. Pour ma part, je suis fière aujourd'hui de donner la parole à deux femmes qui méritent toute la lumière. La première, Anaïck Thomas, a créé un festival de cinéma consacré aux réalisatrices parce qu'il y a encore pas mal de boulot, disons-le, pour l'égalité entre hommes et femmes dans ce secteur parmi d'autres. Ma deuxième invitée, Odile Collet, nous parlera de Voisins de Panier, association de circuit court qui fait le lien entre les fermes et les consommateurs et consommatrices. Initiative pionnière lancée il y a plus de 20 ans. Le tout se passe dans les Côtes d'Armor, département breton à l'honneur cette semaine puisque le jeu des 1000 euros est à Erquy. Vous retrouvez Nicolas Toufflet dans un quart d'heure. Nous sommes fortes, nous sommes fières. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Lanloup est un petit village de 250 habitants, pas loin de Paimpol, dans les Côtes d'Armor, qui accueille prochainement un festival de cinéma bien particulier. Il met en lumière des films tournés sur pellicule et principalement tournés par des femmes. Bobine de femmes est prévue en novembre à Lanloup. Bonjour Anaïck Thomas.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes la co-organisatrice de ce tout jeune festival. Ce sera la troisième édition cette année. Quelle est la raison d'être de cet événement ?
Alors, notre principale motivation, c'est de mettre en valeur le travail des femmes dans le cinéma. Ça reste un milieu pour lequel il y a encore des inégalités en termes de visibilité. Donc, on a à cœur de mettre en lumière le travail des femmes cinéastes et en particulier celles qui filment en pellicule argentique. C'est la spécificité du festival.
Justement, comment est-ce que vous pourriez décrire la différence pour le grand public entre un film numérique et un film argentique ?
Alors, un film argentique, il y a un rapport à la matière, à la pellicule en elle-même. C'est tout un travail qui est très précieux parce que chaque seconde compte. La pellicule, ça coûte très cher. C'est aussi extrêmement délicat de devoir la développer par soi-même. Il y a souvent un rapport au son et à l'image, un travail très spécifique qui est apporté. Du coup, je dirais que c'est en dehors du fait que ça a une texture et un grain si particulier qui est esthétiquement, c'est aussi une manière de travailler globalement qui est différente avec une autonomie aussi vis-à-vis du format et souvent du sujet.
Votre combat, je le disais, c'est aussi la parité hein, dans le cinéma. Un chiffre pour prendre la mesure du problème. Depuis la création du Festival de Cannes, 6% des films en compétition sont réalisés par des femmes. 6% seulement hein, des comptes réalisés par le collectif 50-50 qui milite pour plus de réalisatrices dans le cinéma. Est-ce que vous parvenez à être optimiste sur ce sujet, Anaïck ?
J'ai bien envie de continuer à l'être. Je me dis que à force de présenter aussi des femmes et pas seulement des réalisatrices, aussi des directrices de photographie, des chefs opératrices et de faire comprendre que ces métiers-là sont partagés et que les compétences sont totalement partagées, je me dis que les choses peuvent continuer à évoluer tranquillement.
Ce sera donc la troisième édition hein, du 13 au 16 novembre prochain à Lanloup. Comment a été accueilli ce festival depuis sa création? Est-ce qu'il a rencontré son public?
Tout à fait, on a été extrêmement surpris d'être quasiment complet dès la première édition. On s'était lancé à partir de rien, Jérôme Javel et moi, à deux, à lancer cette édition. Et puis, on a trouvé un public. Mi-novembre, on était inscrit dans le cadre du mois du documentaire. Et c'est vrai que on a eu tout de suite un succès qui nous a permis de demander l'année suivante des subventions. On a fait nos preuves. Ça a fonctionné. On a une toute petite jauge qui est de 120 personnes maximum. Et on a réussi à avoir des publics différents. On essaye de faire venir aussi des personnes un peu plus jeunes cette année.
Toute petite jauge, dites-vous, 120 places, mais dans un village de 250 habitants. C'est quand même assez impressionnant.
Oui, en fait, on transforme la salle polyvalente, la salle polyvalente qui sert à tout dans le village, on la transforme en véritable salle de cinéma avec du matériel de qualité. On installe des gradins, on loue un écran et on a beaucoup d'aide bénévole et on a beaucoup d'aide de la mairie. On a aussi notre partenaire dans le village, c'est un commerce qui s'appelle le Cabelli Cru, qui est une épicerie-restaurant qui nous fait les repas pour toutes les réalisatrices parce que nous, on a le principe de notre festival, c'est de proposer aussi des rencontres avec les réalisatrices au public. C'est-à-dire que chaque séance est suivie d'une discussion d'au moins 20 minutes. Cette année, on aura en plus des tables rondes parce qu'il y a beaucoup de demandes de la part du public d'avoir des précisions sur les techniques cinématographiques. Après, le bouche à oreille a fait que la deuxième édition s'est vraiment extrêmement bien passée et qu'on est très confiant pour la troisième. Du coup, on montre un peu plus de films. Cette année, on montre une vingtaine de films. Et des courts-métrages, des moyens-métrages et des longs-métrages, des fictions, documentaires et films expérimentaux. On a aussi un ciné-concert. Donc voilà, il y aura six moments forts sur 3 jours. Et on invite une dizaine de réalisatrices à venir parler de leur travail, ce qui leur permet aussi de se constituer en groupe, de partager entre elles sur leurs pratiques respectives. Et c'est très important aussi pour nous de leur offrir cette parenthèse au milieu de leur travail, de leurs différents projets, de leurs différents tournages, de venir en Bretagne, là, en plein hiver, au chaud, dans cette ambiance super conviviale.
Vous proposerez notamment un film sur Anita Conti, qui est une grande océanographe française. Ça fait partie des beaux moments à venir de ce festival.
Oui, on a beaucoup de portraits, des portraits de femmes. Il y a aussi beaucoup de films qui sont des chroniques sociales, assez engagées politiquement. Il sera évidemment question des violences sexistes et sexuelles. Mais on parle aussi cette année de santé mentale. Il y a une soirée, la soirée du samedi, est quasiment que en noir et blanc. Au niveau esthétique, il va y avoir des choses très, très fortes. Voilà, je vous engage au mois d'octobre à aller voir notre programmation sur notre site internet.
Oui, voilà, parce que c'est important de le préciser, le site internet sera actualisé en octobre. Pour l'instant, si on se connecte sur votre site, on voit l'édition 2024 du festival Bobine de Femmes. Vous parliez des bénévoles tout à l'heure, Anaïg. Vous êtes vous-même bénévole. Qu'est-ce que vous faites à côté ?
Eh bien, en fait, j'ai quitté mon ancienne vie de costumière de théâtre pour venir m'installer dans ma région d'origine. Et je travaille dans ce petit commerce-là du centre-bourg, au Cabelli Cru. Et voilà, c'est un travail où on est en lien avec les personnes. Et ça avait beaucoup plus de sens pour moi que le milieu de la mode que j'ai quitté, que j'ai trouvé très violent.
Et ça a du sens aussi d'avoir créé ce petit foyer de cinéphilie dans un village breton en plein mois de novembre.
Oui. C'est vraiment un moment où les personnes sont disponibles et disposées. Elles sont curieuses. Enfin, c'est ce qu'on a eu. On a été vraiment très chaleureusement accueillis, même si on a montré des choses qui n'étaient pas évidentes en termes de format et en termes de thématiques abordées. Et le fait, en fait, qu'on ait la possibilité autour d'un verre ou d'un gâteau de continuer, de poursuivre la discussion, je pense que c'est vraiment ce qui fait le secret de cette atmosphère agréable en fait pour tout le monde, et les réalisatrices étaient aussi, tout le monde était très ému à chaque fois au moment du départ le dimanche, voilà, tout le monde pleure.
Qu'est-ce qui vous rend fière, Anaïg ?
Moi je suis contente forcément d'avoir créé ça avec Jérôme Javel. Maintenant l'équipe évolue, il y a des personnes qui se saisissent de ça. Dès la deuxième édition, on avait senti que le festival appartenait au village, c'était plus simplement notre idée de départ. Donc c'est vraiment toute cette énergie collective et cette envie de faire bouger les choses, même si c'est pas toujours très évident. Voilà, ça évoque toujours des choses. On y va assez franchement dans certaines thématiques, et c'est très encourageant de voir que avec du temps et de la discussion, les choses évoluent.
Bobine de Femmes, c'est donc à Lanloo dans les Côtes d'Armor du 13 au 16 novembre prochain. Merci beaucoup, Anaïg Thomas.
Merci pour votre invitation.
Et bonne journée, à bientôt.
Bonne journée, au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Allez, la rentrée scolaire approche, c'est le bon moment pour revoir sa manière de faire les courses. Et si vous passiez au circuit court cette année ? Voici un exemple dans les Côtes d'Armor. Voisin de panier, c'est un site internet d'achat de produits fermiers, de produits alimentaires, qui dispose de 15 points de dépôt un peu partout dans le département des Côtes d'Armor. Bonjour Odile Collet.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes coordinatrice chez Voisins de Panier, qui est basée à Trédaniel. C'est une association qui fait partie des précurseurs en la matière, hein, puisqu'elle existe depuis plus de 20 ans déjà. Voisins de Panier est née en 2004 et ce sont des citoyennes et des citoyens qui en sont à l'origine. La démarche vient des consommateurs et non pas des paysans.
Et oui, c'est là l'originalité de Voisins de Panier. Ce sont des consommateurs qui se sont réunis en revenant du forum social du Larzac pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos agriculteurs localement qui font des efforts par rapport à l'environnement.
Comment ça marche aujourd'hui, Voisins de Panier, concrètement?
Comment ça marche? En fait, c'est peut-être pas très joli, mais on dit que c'est un drive paysan. Et donc, en fait, le principe, c'est de faire sa commande sur Internet avant le mardi 14h, pour récupérer son panier la même semaine, le vendredi, en fin d'après-midi. Et ce qui est vraiment très original, c'est que nous, on a eu notre site dès 2006. Donc, c'était vraiment, comme vous dites, précurseur.
On peut acheter des fruits et légumes, bien sûr, mais aussi de la viande, des œufs, du pain, des produits laitiers. L'ambition, c'est vraiment de faire toutes les courses alimentaires grâce à Voisins de Panier.
Oui, c'était une volonté des citoyens initiateurs de pouvoir tout faire toutes ces courses à Voisins de Panier. Donc, il n'y avait pas forcément tout au départ, mais la gamme s'est étoffée au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ce sont une quarantaine de producteurs qui fournissent Voisins de Panier.
Une fois qu'on a fait ses courses, où est-ce qu'on récupère son panier?
Eh bien, en dehors du siège à Trédaniel, à côté de mon contour, la cité médiévale, il y a 15 dépôts dans le pays de Saint-Brieuc, dans le pays de Lamballe et un peu dans le Menet. Il y a des fermes, il y a des bars, des caves-bars, une MJC. Et puis récemment, au mois de mars, on a inauguré le dépôt de Quessois dans un tiers-lieu qui est une récupérette, une recyclerie et un repair café. Il y a des bénévoles qui tiennent la permanence parce que c'est ça aussi à Voisins de Panier. Il y a une forte implication bénévole un peu tout au long de l'année de citoyens engagés.
Et quels sont les retours des paysans et des paysannes quant à cette initiative?
En général, ils sont satisfaits de ce mode de commercialisation citoyenne et ça leur. Nous, à Voisins de Panier, en fait, c'est vraiment le producteur qui fixe son prix. Nous, on prend juste une petite marge de 18% pour la location du local, les salaires des salariés, tout ça. Mais 82% de ce que vous payez reviennent au producteur.
Qu'est-ce qui vous rend fier, Odile?
C'est de soutenir des producteurs locaux, de nourrir des gens du coin avec des gens du coin. Oui, ce sont des gens du coin qui nourrissent des gens du coin, pardon. Et de soutenir des paysans, de l'emploi non délocalisable, d'avoir un réseau. Les gens au niveau des dépôts, les consommateurs, ils se rencontrent. Enfin, moi, je sais que personnellement, je suis consommatrice depuis 2005 et je suis super contente de mettre un visage sur les gens qui me produisent ce que je mange.
Voisins de Panier, c'est donc à Trédaniel, dans les Côtes d'Armor. Merci beaucoup, Odile.
Je vous en prie.
Et bonne journée.
Bonne journée.
Les carnets de campagne sont préparés par Sophie Hoffmann, que je remercie, tout comme Cédric Diallo, qui était à la technique aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est le Finistère qui sera à l'honneur avant le département de l'Ain et celui du Jura. Midi 45, nous restons pour l'instant dans les Côtes d'Armor. Voici Nicolas Stoufflet, le jeu des 1000 euros.
Chers amis, bonjour.
Bonjour.
Erquy, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, c'est une petite commune du littoral, non loin de Saint-Brieuc, commune qui vit toute l'année, notamment grâce à son activité maritime. Erquy étant connue pour la coquille Saint-Jacques, une pêche raisonnée, limitée, pour assurer sa durabilité. Erquy active toute l'année grâce au port et aux 53 chalutiers, grâce à la criée, grâce à l'artisanat du bâtiment et à la présence de Biogroup qui fabrique à Erquy des boissons biologiques et des desserts végétaux. Une des particularités visibles de la localité, ce sont les maisons, non pas en granit, mais en grès rose. Et d'ailleurs, une carrière de grès rose a été ouverte, a été rouverte. Et s'agissant du patrimoine bâti, on trouve plusieurs chapelles anciennes restaurées, un viaduc original qui a un peu plus d'un siècle. C'est une voie verte désormais, anciennement une voie de chemin de fer. Il y a aussi un château, le château de Bienassis d'origine féodale. Je vous rappelle que ce week-end, Erquy fête les 30 ans de la Sainte-Jeanne. C'est un grand voilier. voilier traditionnel qui est une réplique d'un bateau ancien. Dès aujourd'hui et pendant 3 jours, pour l'anniversaire de la Sainte-Jeanne, on organise un rassemblement de vieux gréements, un fest-noz, un feu d'artifice, un marché de créateurs et des sorties en mer tout le week-end pour fêter les 30 ans de ce beau bateau à voile ancien. Depuis Erquy, votre jeu de la mi-journée en compagnie aujourd'hui de Marion Morpin et Dan Brisset. Super accueil, comme ça a été le cas toute cette semaine d'ailleurs. Bonjour Marion.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes à Erquy en vacances.
Oui, toutes les vacances scolaires, le plus possible.
Quelle est votre plage préférée? Vous pouvez nous le dire, hein, Marion.
Carwal et puis Lourtouet.
Et pour la marche, vous allez du côté du Cap d'Erquy?
Sur le Cap d'Erquy, oui.
Oui. Il y a de beaux sentiers bien aménagés.
Et de belles vues.
De très belles vues. Quel panorama extraordinaire.
Oui.
Puis la lande.
Absolument.
Ouais, qui fleurit parfois avec la bruyère. Des espaces protégés que vous respectez, bien sûr, Marion.
Évidemment.
Très important. Marion, vous êtes aujourd'hui avec Anne Brisset au Jeu des 1000 euros. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas.
Où habitez-vous?
J'habite à Créhun, dans les Côtes d'Armor.
Et vous faites de la grimpe d'arbres, Anne?
Oui.
C'est une activité, bien sûr.
C'est une activité qui est encadrée et qui... C'est le principe, c'est de grimper dans les arbres. Ouais. Voilà, on trouve un arbre et puis on grimpe dedans, mais en toute sécurité, ouais. Avec du matériel adapté. Et on profite du calme de la nature et des bienfaits des arbres.
Alors, quels sont les équipements à avoir?
Baudrier, cordes. Et puis, en avant.
D'ailleurs, votre mari est...
Éducateur de grimpe d'arbres.
Éducateur de grimpe d'arbres.
Voilà, c'est son métier.
Dans la région.
Dans la région, du côté de Ploubalet.
Message est passé, Anne. Anne et Marion, bonne chance avec ces questions tirées au sort. C'est votre jeu des 1000 euros sur France Inter. Un plaisir partagé. Première question bleue de Claire Drio de Chassagne, en Haute-Loire. Quel est le nom des arènes de Paris? C'est comme ça que vous...
Lutèce?
Claire vous pose la question.
Les arènes de Lutèce?
Les arènes de Lutèce, en sachant qu'elles datent du IIe siècle, donc de la Gaule. On les appelle les arènes de Lutèce. Les arènes de la capitale, près de la rue Monge, dans le 5e arrondissement. Autre question bleue de Jean-Claude Soudre à Bayonne. Quel est le point commun entre Michel Ardan, Otto Lidenbrock, Samuel Ferguson et John Atterras? Je vois que ma question vous laisse jusqu'à présent sans voix, la bouche bée.
C'est une seule personne ?
Ce n'est pas une seule personne. Ce sont des personnages...
De bande dessinée ?
Pas de bande dessinée.
De films d'animation ?
Pas de films.
De romans policiers.
Quelqu'un a soufflé et a dit « Vas-y Marion ». C'est quelqu'un que vous connaissez apparemment. Oui. Pas de romans policiers, mais de... Voilà, des personnages...
De série ?
D'un auteur. Question mise de côté pour être resservie tout à l'heure dans la deuxième partie du jeu. Autre question bleue dans l'immédiat, au nom de Marine Gay de Ferrières-en-Brie en Seine-et-Marne, question postée sur franceinter.fr, qui est l'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 ?
Oh, c'est comment elle s'appelle? Olympe de Gouges.
Olympe de Gouges, oui. Écrivaine, dramaturge, combattante d'avant-garde pour l'abolition de l'esclavage, le respect des droits humains et pour la défense des femmes, en effet. Elle est morte guillotinée en 1793 pendant la Terreur. Eh oui, Olympe de Gouges. Question blanche de Pascal Noël, qui habite Verclose, dans la Drôme. En termes maritimes, comment appelle-t-on cette réalisation qui consiste à détordre les brins d'un cordage, puis de les retordre pour former une boucle, un arrêtoir d'extrémité ou l'union de deux cordages de même dimension? Et on parle de ça aussi en électricité, d'ailleurs.
Je l'ai. Une épissure ?
Une épissure, terme de marine et terme d'électricité aussi. Autre question blanche, d'Anne-Marie Joubert-Gaillard de Grenoble. Jacques II de Chabannes, qui vécut à cheval sur le 15e et le 16e siècle, donc c'est une figure, c'est une image, à cheval sur le 15e et le 16e siècle, il a peut-être vécu à cheval aussi d'ailleurs tout court, il a été maréchal de France et il a participé à toutes les guerres d'Italie à cette époque. Il est beaucoup plus connu sous un autre nom, à connotation, oui, un peu péjorative. Lequel ? Quel est son autre nom ? Jacques II de Chabannes. 15e, 16e siècle.
Péjoratif, vous dites ?
Oui, péjoratif. On peut dire les choses de cette façon. C'est comme ça qu'Anne-Marie l'a écrit, c'est vrai. Il a été tué lors d'une bataille. En Italie, en Lombardie.
La Palice ?
C'est Jacques de La Palice. La Palice, La Palissade, Monsieur de La Palice, Vérité de La Palice. Voilà pourquoi Anne-Marie avait introduit l'expression péjoratif dans sa question. En réalité, il a été tué lors de la bataille de Pavie. Ce sont ces soldats qui, à sa mort, ont entonné une chanson à sa gloire. Hélas, La Palice est mort, il est mort devant Pavie. Hélas, s'il n'était pas mort, il ferait encore en vie. Et non pas, il serait encore en vie. Donc il y a eu une petite interprétation et une confusion dans les mots. Le terme exact ou la phrase exacte, c'est « il ferait encore en vie ». Mais ça a donné l'expression « la palissade »,« monsieur de la palisse », c'était son nom, Jacques II de Chabannes. Question rouge. Au nom de l'association Valentin à Huy à La Roche-sur-Yon, après Londres, quelle est la ville du Royaume-Uni la plus peuplée ?
Manchester.
Ce n'est pas Manchester, c'est avant Manchester. Manchester est la troisième. Ce n'est pas Édimbourg.
Birmingham.
Birmingham, oui, après Londres, c'est la ville du Royaume-Uni la plus peuplée. Il y a Londres, ensuite Birmingham et en troisième, Manchester, au Royaume-Uni. Vous avez donc répondu à 5 questions sur 6. Une seule n'a pas trouvé de bonne réponse alors qu'il est. Marion et Anne, Jean-Claude Sourdre à Bayonne vous demande le point commun entre Michel Ardan, Otto Lidenbrock, Samuel Ferguson et John Atterras. On n'était pas loin de la bonne réponse, mais il faut être plus précise. Top départ pour les 15 secondes, une seule réponse. Ce sont des personnages. Qu'est-ce qui les réunit ?
Leur auteur ?
Oui, c'est ça. Mais quel est l'auteur ?
Maigret, Simenon ?
Ce n'est pas Georges Simenon, ce sont tous des personnages de Jules Verne. Oui. Otto Lidenbrock dans Voyage au centre de la Terre, Samuel Ferguson dans 5 semaines en ballon, Michel Ardan de la Terre à la Lune et autour de la Lune, et peut-être moins connu, John Atterras dans Les aventures du capitaine Atterras. Okay. Donc tous ces personnages sont ont été inventés par l'auteur Jules Verne. Jean-Claude Soudre à Bayonne gagne 15 euros, car c'était une question bleue, finalement. Marion Morpin, Anne Brisset, vous pouvez encore, en passant par le repêchage, espérer tenter le... Dans ce théâtre, l'encre des mots, à Erquy, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Banco ou pas banco ?
Banco.
Banco.
Avec une hypothèque, une bonne réponse à cette question repêchage. Quelle est l'année de cette chanson ?
J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton art dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore.
Est-ce une chanson de 1995, de 2010 ou de 2022? 95, 2010, 2022.
1995.
Ça aide les propositions. 1995. Chanson signée Jean-Jacques Goldman. Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion, bien sûr. Grâce à cette bonne réponse, l'hypothèque est levée. Vous avez la possibilité de répondre à la question Banco.
Pour envoyer vos questions au jeu des 1000 euros, rendez-vous à la page de l'émission sur franceinter.fr.
Question envoyée par Samuel Adiguzel, qui habite Lay-Saint-Christophe en Meurthe-et-Moselle. Comment nomme-t-on une situation dans laquelle une entreprise vend un produit à un prix inférieur à son coût de revient, dans le but d'éliminer la concurrence? Nous cherchons le nom donné à une situation à travers laquelle une entreprise vend un produit à un prix inférieur à son coût de revient dans le but d'éliminer la concurrence.
Shrinkflation, non, c'est pas ça. La shrinkflation, non, c'est pas ça. Non, non. Alors là.
C'est un terme d'origine anglo-saxonne.
Ouais.
Mot anglo-américain.
Anglo-américain.
On vend un produit à un prix inférieur à son coût de revient dans le but d'éliminer la concurrence. Pratique commerciale pas très sympathique.
Ça va vous revenir, non ?
Il reste quelques secondes, désolé Marion et Anne.
Aïe, aïe, aïe.
Il y a 2 heures, ça ? Je sais non.
Proposer.
Shrinkflation ?
Non, c'est pas ça.
Mais c'est pas ça.
Alors, shrinkflation, c'est lié à l'inflation,
oui,
etc.
Oui, mais,
Non, mais
c'est un malentendu.
Attendez, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison.
C'est pas revenu, mais je pense que ça va revenir quand vous nous le direz.
Oui, bah, je vais vous le dire, en effet. Oui. Je suis là pour ça, en effet. C'est mon beau métier, un plaisir quotidien, croyez-le bien. La bonne réponse, c'est le dumping.
Mais oui.
Ah, le dumping.
Tant pis.
On parle de cela à propos aussi de la fiscalité ou,
bien, c'est ça,
ou du droit du travail également. Ouais. Le dumping. Notre auditeur Samuel Adiguzel à Lay-Saint-Christophe en Meurthe-et-Moselle va recevoir 45 euros. Marion Morpin, Anne Brisset, le récepteur radio pour vous. Et le livre de Thomas Negaroff et Philippe Corbet, nos deux amis journalistes de France Inter, Les Nouveaux Oligarques, coédition France Inter, Les Arènes. Très bonne fin de semaine et à lundi, si le cœur vous en dit.
Merci Nicolas Stoufflet. Je rappelle que les prochains enregistrements sont prévus à Pont-Gibaud dans le Puy-de-Dôme le mardi 9 septembre, le mercredi 10 à Aurec-sur-Loire en Haute-Loire et le jeudi 11 septembre vous êtes attendus à Dardilly dans le Rhône. Tenez, il me reste un peu de temps. Je voulais vous lire quelques messages reçus dans la boîte mail des carnets de campagne. Voici le message d'Azilise. Bonjour les carnets, je vous contacte pour vous signaler notre petite crèmerie paysanne à Lamballe. Nous sommes paysans bio, nous transformons notre lait pour vous régaler toute l'année avec du skyr, du riz au lait et des glaces. Et nous avons besoin de soutien pour sauver le bio qui nourrit et qui protège la planète. Nous accueillons à la ferme le mercredi après-midi. C'est l'occasion de dire bonjour aux vaches. Et Azilise de conclure ainsi son message. Merci pour vos belles émissions que j'écoute dans mon labo et qui donnent de l'espoir. Annick Crèmerie, c'est le nom de cette ferme, à Lamballe-Armor, toujours dans les Côtes d'Armor. Et puis le courriel de Sigrid pour signaler l'association Argentilaise à Perros-Guérec. Ces gens géniaux restaurent et font naviguer 2 bateaux patrimoniaux, écrit notre auditrice. L'un des deux date de 1931, il est classé aux monuments historiques. Et l'autre est une réplique d'un bateau de travail, goémonier sablier du début du 20e. Ces bénévoles transmettent la connaissance de la voile ancienne. C'est une association à but social qui fait découvrir la voile à des personnes qui n'y ont pas accès. Le tarif des adhésions est très bas, 30 euros l'année, et certaines sorties en mer sont organisées pour accueillir quelques personnes en situation de handicap. Argentilaise, c'est le nom de cette association à Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor.